Allez, on va faire un podcast juste pour que tu puisses te plaindre. Ça va être drôle, ça.
Ouais, c'est ça. Un peu une heure pour s'insulter.
Ça peut être bien.
Parle bien dans ton micro, Maxime.
Une heure pour s'insulter.
Oui, bah pas trop dans le micro.
Zach Morris, vous irez écouter Serial Causeur en retenue.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur saison 10. On a pris le temps de revenir avec pas mal de titres qui vont faire débat. On commence à perdre notre bronzage, mais c'est pas grave, on va profiter du soleil qui brille dans le cœur de mes causeurs. Avec à qui les bons tuyaux?
Ah bon? Ok.
Tony Stefano.
Non, oh, c'est gentil, ça. Merci, ça me fait plaisir.
Mélanie Gilmore.
Ah, j'aime bien, je garde, merci.
Et j'ai pas trouvé mieux que Professeur Maxime.
D'accord, Professeur X. Ok.
Alors voici notre petite sélection de séries à voir ou à ne pas voir. La chute de la maison, de la maison Usher sur Netflix. Mike Flanagan, autant d'adorateurs que de détracteurs dans ses séries. Cette fois, il adapte Edgar Allan Poe. Stéphane, est-ce qu'on a là une mini-série à voir absolument?
À voir absolument, clairement que non. Mais à visionner malgré tout, parce que c'est assez rare d'avoir des œuvres de Edgar Allan Poe adaptées, donc crachons pas dessus, même si c'est pas forcément très réussi de la part de Mike Flanagan. Comme sur ses dernières séries, c'est trop verbeux, mais ça blablate tout le temps, mais ça c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, voilà. Et en fait, il y a un seul épisode qui vaut le coup, en plus il dure 1h20, donc c'est un film, sans déconner, et c'est le dernier.
C'est le 6?
Mais non, c'est le dernier. Mais non, il s'est chié même sur le 6, il est chié à mourir. Ouais, non. Mais en même temps, la structure...
Il y a combien d'épisodes?
Il y en a 8. Mais parce que la structure est différente, parce que t'as le premier qui pose la situation, t'as le dernier qui les résout, et en même temps, t'as 6 gosses et t'as 6 morts dans un par épisode. Donc c'était beaucoup trop quadrillé pour que ce soit original et surprenant.
Hill House, c'était un peu comme ça, c'est-à-dire que c'était... on remontait à chaque fois, on voyait un peu le... chaque enfant.
Oui, mais là, c'est beaucoup trop
compliqué. Ça avançait sans avancer, en fait.
Oui, mais Hill House ne grillait pas toutes ses cartouches dans le premier épisode. Et là, c'est un peu le problème de la série. C'est très bien, c'est très beau, c'est très bien joué. Mais en fait, à la fin du premier épisode, tu connais à peu près tout ce qui va se passer dans la série. Ah. Et du coup, tout ce que tu vois ne t'étonne jamais. Tu as des petits jumpscares parce que c'est Flanagan et il en faut. Mais quand tu arrives au dernier épisode... On te dit pourquoi tout ça s'est passé, mais t'as pas la surprise de qui va survivre ou quoi. Et donc dans la construction, il y a un truc qui passe pas trop, je trouve. Ils auraient peut-être pas dû dire que j'ai pas envie de spoiler.
Mais de toute façon, c'est l'histoire de la série. Donc tu sais que la maison elle va chuter, et que les enfants vont mourir. Donc j'ai pas trop compris. Ouais, je sais pas. C'est très bizarre.
Mais il aurait pu garder un peu de mystère, en fait, pas forcément commencer sa série en disant les 6 vont mourir.
Mais c'est pour ça que le dernier est quand même plus intéressant, parce qu'il offre quand même des surprises comparé à tout ce qui était prévu sur les 7 premiers, quoi.
Mais le mystère, c'est quand même de savoir s'il y en a un qui va survivre.
Mais non, parce qu'on sait qu'ils vont tous mourir.
Absolument pas.
Ou c'est pas de savoir comment ils sont morts, le truc intéressant.
Non, même pas. Enfin, si, mais...
C'est les trucs les plus originaux quand même de chaque épisode, c'est la mort, parce que c'est là où ils misent un peu sur le gore. D'ailleurs, c'est même plus de l'horreur, c'est du gore. Ils misent sur ça, voilà, c'est tout. Mais ça suffit pas à faire remplir un épisode d'une heure, quoi.
Et ce qui est dommage, c'est que tu parles d'une famille qui est censée être complètement dysfonctionnelle, qui est censée être une famille très forte, enfin voilà, face à la justice, etc. Mais le fait d'enlever un acteur par épisode et de ne jamais les voir ensemble interagir fait qu'en fait on s'en contrefou quand t'arrives à Victorine dans le 4e épisode qui va mourir, qui est complètement isolée de ses frères et sœurs, de tous les autres personnages. Et du coup, il y a quelque chose où d'un épisode à l'autre, tu n'as pas d'attachement à ce qui va se passer.
Non, enfin, mais
moi,
même
ça m'a
personnage.
Vraiment déconnecté.
Ouais, c'est dommage parce qu'il y a un sacré bon casting quand même.
Oh, bah oui, le casting, c'est Mike Flanagan Universe. Enfin,
ouais, clairement. Il a fait appel à tous les anciens de tous ses films et séries pour Netflix et les a fait revenir pour son dernier tour de piste là, chez eux, parce qu'après, il se casse. Mais c'est vrai, hein, c'est cool de les revoir, de les voir s'amuser. Moi, j'adore voir Carla Gugino s'éclater à l'écran, Kate Siegel qui a des rôles où elle s'éclate aussi, ça se voit. Mais en fait, on voit qu'ils prennent du plaisir. Mais sauf que le téléspectateur, ça suit pas, quoi. Enfin, on se fait chier, quoi.
Bah non.
On se fait chier, ouais.
Bah, en ayant vu que le premier était bien, après, il faut que je vois la suite, mais...
Oui, mais le premier et le dernier sont vraiment très, très bien.
Donc, tu me dis quoi, qu'il faut que je saute carrément au dernier, là? C'est pas la
c'est
bonne
chose. Ce que j'ai fait, voilà, je le dis. Bah, j'ai
potentiellement...
Juste vu le premier et le dernier, donc...
Mais potentiellement,
ça, et on comprend tout.
Ben voilà. Ouais, c'est ça.
Ah ouais. Bon, ben et si j'ai pas le temps, je ferai ça alors.
Et qui a lu la nouvelle?
Enfin, alors il en adapte plusieurs, hein, parce que chaque mort, il adapte des nouvelles de Poe. Moi, je retrouve pas la noirceur et de Poe, quoi. Enfin, c'est quand même très poétique et très beau et très sombre et très désespéré. Et là, enfin, je trouve qu'il passe à côté. Mais je pense que c'est les tunnels de dialogue. Mais quand je dis que c'est chiantissime, c'est chiantissime. En plus, tu comprends pas forcément tout ce qu'il te raconte. Je pense qu'en fait, il a voulu mettre des morceaux de texte de Poe. Alors, je comprends, c'est parce que c'est joli, mais sauf que c'est quand même très compliqué, quoi. Enfin, c'est de la poésie, quoi. Donc, il y a des fois, c'est un peu imbitable. Voilà.
Même au-delà de ça, toute la poésie, enfin, par exemple, il y a un poème qui est déclamé dans le dernier épisode par Carla Gugino. Et t'as vraiment l'impression que ça pourrait être très bien si. Tout avait un peu plus d'ampleur. Et en fait, tu te rends compte dans le dernier épisode que le patriarche qui va donc bientôt mourir, tout ce qui lui est arrivé, on s'en contrefout un petit peu et du coup, on se contrefout un peu de sa chute. Donc, il y a un truc qui est un peu déceptif dans la série où, au fur et à mesure, ils enlèvent tout intérêt à l'intrigue. C'est ça qui est un peu dommage. Donc, le dernier, c'est sûr, c'est bien, mais entre-temps, tu t'es tapé 6 épisodes un peu vite, quoi.
Et il n'y a aucune explication autour de l'histoire de sa mère à lui qu'on peut entrevoir au premier épisode?
Sa mère est malade, c'est tout. Voilà,
après, c'est tout, il n'y a rien de plus. Ouais.
Non, elle a juste une maladie qu'elle transmet à ses générations futures, quoi, c'est tout.
Ah, d'accord, je m'attendais à autre chose.
L'arc du passé, on va dire, enfin tous les flashbacks, ils servent à quelque chose ou pas? Parce que très honnêtement, je trouve qu'ils sont relous.
Alors en fait, ils servent à quelque chose, mais encore une fois, dans le premier et dans le dernier. L'intérêt étant que tu dois comprendre comment ils en sont arrivés à monter cet empire et que c'est grâce au personnage de Carla Gugino. Sauf qu'en fait, tu as tout deviné dans le premier épisode et ils étendent ça. Tout le temps, tu la vois revenir bon, à chaque mort, mais aussi dans le passé. Et en fait, quand t'arrives à la fin, on te dit, bon, en gros, c'est le diable avec qui tu fais un pacte, quoi. T'es là, tu fais, mais c'est pas du tout une surprise. Alors, c'est peut-être une surprise pour les personnages au moment où ils l'apprennent, mais nous, on les voit 60 ans plus tard, et on a tout compris depuis cet épisode. Donc, en fait, ce que tu fais pour une révélation, ça fonctionne absolument pas.
Non, mais je pense que la surprise, c'est le fait que le pacte en lui-même, que deux personnes comme Madeleine et le patriarche, Roderick, puissent dire de suite, je hypothèque le futur de ma lignée sans aucun problème, quoi. Voilà.
Oui, mais pour le coup, ça donne pas le poids que ça aurait pu avoir si on avait appris ça en fin d'épisode 2 avec tous les enfants qui allaient mourir derrière.
Il est vrai. Mais en même temps, il a pris une nouvelle qui fait 40 pages, quoi. 40 pages, il fait des épisodes d'une heure, donc t'as 8 heures. Sachant qu'il comble en mettant d'autres nouvelles dedans, enfin celle du chat, là, enfin... avec la mort de Raoul Colli, je sais plus comment il s'appelle, Napoléon, le fils... Bon, voilà quoi, enfin, elles sont sympas, mais tout n'avait pas d'intérêt dans Poe, surtout qu'en plus c'est très réflexif, enfin, c'est surtout des gens qui dialoguent et qui parlent de leur état émotionnel. Donc, en soi, c'est difficile d'adapter Poe et je trouve que c'est raté parce que ça manque d'émotion, clairement. Voilà.
Alors, sur ces 5 mini-séries qu'il a fait pour Netflix, lesquelles sont à ne pas louper?
Clairement la première. Hein.
Hill House.
Ouais. Ah oui, The Haunting of Hill House. Ouais.
Et Bly Manor aussi.
Ouais. Ouais. Oui, oui.
Elle était déjà quand même vachement moins bien.
Oui. Elle est moins bien, mais elle est quand même, ça reste quand même de la qualité, et surtout dans ce genre-là.
Donc après Midnight Mass, Midnight Club.
Oh non, quelle horreur.
Alors Midnight Club, clairement pas.
Oui, ça c'était vraiment mauvais.
C'était ni
fait. Midnight Mass, moi je suis vraiment aussi pour la. C'était vraiment très mauvais, mais a priori, le fait que les gens discutent.
Ça parlait beaucoup.
Ça a plu à certains, a priori, mais voilà.
Franchement, sur Netflix, ils tentent des choses qu'on ne voit pas ailleurs, et rien que pour ça, c'est sûr que ce n'est pas des incontournables, mais c'est quand même bien meilleur que 50% de la production Netflix.
Oui, et en plus...
même quand c'est mauvais.
Oui, voilà. Et puis ce que j'adorais aussi, c'est qu'il avait une certaine régularité tous les mois. Pour octobre, il venait avec sa série d'horreur, adaptée de classique ou pas de classique, de la littérature. Et voilà, tu avais une proposition de la part de Mike Flanagan. Honnêtement, peut-être qu'il s'est épuisé en... en adaptant trop. Oui. Et moi, ce que je lui souhaite, c'est... Ouais, ben, je lui souhaite de partir. Enfin, en effet, il est parti, mais de créer. Voilà, de faire de la création originale de A à Z pour se prouver qu'il sait faire quelque chose d'autre, quoi. Et peut-être que ça lui redonnera du peps aussi.
On poursuit par la fin de Sex Education, la saison 4 s'est terminée sur Netflix il y a quelque temps maintenant. Est-ce que c'est une bonne fin, Aki ?
La fin en elle-même, je dirais que oui, mais en tant que saison, c'était vraiment faiblard. À la fin de la saison précédente, on sait que leur lycée a fermé parce que y a eu un grave... il s'est écroulé, quoi, grosso modo. Et donc, la plupart des personnages principaux se retrouvent dans un nouveau lycée. Et ce nouveau lycée, c'est vraiment... Il n'y a rien de plus non irréaliste que ce lycée, mais bon, tant mieux, hein, si vous voulez. Donc, tout le monde est queer, c'est genre des safe places partout, etc. Si vous voulez. Sex Education a toujours encouragé l'inclusion, donc tant mieux. Mais après, quand on va dans le too much, je pense que même les gens concernés en avaient marre, là. Voilà, clairement.
C'est pas ce qu'on reprochait à Heartstopper saison 2 aussi
C'est un peu différent. C'est un peu... Enfin, pour le coup, Heartstopper, ils ont... effectivement rajouter encore des personnages queer, mais dans le réalisme quand même. Enfin, je trouve que Heartstopper, c'était un peu moins too much que Sex Education. Si les deux étaient sortis en même temps, je pense que les gens auraient plus bâché Sex Education, quoi. Voilà.
Bah, c'est en même temps.
Dans Heartstopper, c'était moins policé. Enfin, non, je trouverais pas le bon terme. Ouais, aussi, c'est dommage. Mais il y a quelque chose un peu de l'ordre. C'est pas le lycée entier que tu vois dans Heartstopper, c'est des potes entre eux, c'est une communauté entre elles. Alors que Sex Education, tu vois vraiment le lycée et toutes les catégories de personnes. C'est pas que des potes. Donc il y a un côté où normalement tu es censé représenter beaucoup plus de réalisme, je trouve, dans les personnages. Et du coup, c'est ça qui. Je trouve que c'est un peu ce qui faisait sa force au début et ce qui fait un peu sa. Ouais, c'est défaut.
Ah non, mais la dernière saison, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. En plus, je comprends pas comment ils ont décidé de qui restait. Enfin, si, c'est pas popularité de toute façon, mais par exemple, autant j'adore le personnage d'Adam, autant j'ai pas compris pourquoi il avait un arc qui n'avait rien à voir avec les autres. Donc en fait, il est dans une série complètement différente. Il est genre dans son haras de cheval, là, et voilà quoi. Limite, il a plus d'interaction avec les autres du tout. Il y en a quelques-uns à sauver, par exemple le personnage de Ruby qui pour le coup dans cette dernière saison a un peu un arc de rédemption où elle passe toujours de son côté un peu queen bee bitch mais qui se fait accepter par tout le monde, donc tant mieux. Mais ouais, voilà, pourquoi est-ce que les deux autres, enfin les, j'ai oublié déjà les noms, les deux, j'ai oublié leur nom,
pour dire à quel point je...
Non, mais Maeve, pareil, on savait qu'elle serait moins présente dans cette saison. Voilà, elle a démarré sa carrière au cinéma, on la reverra plus, c'est pas grave.
Mais pourquoi, d'ailleurs, alors, pourquoi ils annulent pas, ils annulent pas. Pourquoi ils annulent pas en plus, le pitch que tu viens de nous faire là, de la saison 4, c'était quand même assez pourri, quoi. C'est très artificiel pour essayer de relancer une série, surtout pour l'annuler à la fin de la saison. Donc je n'ai pas compris pourquoi ils ont pas dit stop.
Bah, je pense qu'il y avait pas de fin. Conclure.
Voilà, il n'y avait pas de fin, sinon en saison 3, il n'y avait aucune fin. Là, en saison 4, il y a au moins une fin.
Bah, autant faire un téléfilm, quoi.
Ah, bah, pour le coup, je suis bien d'accord avec toi. Et il y a aussi l'arc de Gillian Anderson que j'ai vraiment pas compris. Ok, elle est en postpartum, etc. Elle a, on a des discussions très ouvertes sur le fait d'être mère célibataire, sur les besoins d'une mère aussi, en plus des besoins d'un enfant. Mais, pareil, je trouve que ça tombe complètement à plat. Et personne ne se fait challenger en fait dans cette saison. C'est toujours Otis qui fait n'importe quoi, point barre. Voilà.
Comme depuis le début, quoi.
Ouais, mais encore pire qu'au début, j'ai l'impression, parce qu'au moins, il se faisait rembarrer soit par Maeve, soit par Nkuti. C'est quoi déjà son nom de personnage ? Punaise, j'ai un trou de mémoire.
Eric. Bref.
Oui, Eric, merci. Merci. Mais là, les deux, ils servent à rien, quoi. Ils sont. Rien ne va. Et le dernier épisode, ils ont voulu faire un petit peu on est des adultes, mais bon, pas vraiment, quoi. Voilà.
Du coup, grande série ou pas ? Ou série plutôt nécessaire ?
Ça veut dire quoi, série nécessaire ?
Elle est très pédagogique.
Oui.
Dans ce sens-là, oui. Alors oui.
Je crois qu'on a eu déjà le débat l'année dernière, non ? Sur la nécessité et la pédagogie de la Sex Education. Ah non, c'était sur le sexe. C'était l'émission sur le sexe. Mais... Est-ce que Netflix a vocation à proposer des trucs pédagogiques?
Bah, pourquoi
oui, parce
pas.
Que son public est particulièrement jeune.
Ouais.
Ouais. La télé fait ça, hein. La BBC, c'est ça. Il y a plein de... Doctor Who, à la base, c'était des contenus pédagogiques.
Oui, mais... ouais, oui, sûrement, je sais pas. Parce que j'ai du mal à... Enfin, moi, j'ai jamais accroché, donc j'arrive pas à comprendre comment on peut encore lui donner cette... Enfin, dire qu'elle était pédagogique, mais que... voilà.
Bah,
elle est centrée sur l'inclusion, donc pour des jeunes de cet âge-là, ça peut compter.
Et même de parler de sexualité, ils ont quand même fait un partenariat avec le planning familial.
Ah, ça, c'était bien.
Il y en avait partout.
Ouais, la campagne de pub était bien. Ouais, non, pour le coup, c'est vrai, c'était intelligent. Ouais.
Les séries, ça dit quelque chose du monde, ça nous a tous appris des choses. Bah, parfois, c'est très visible, comme là, et d'autres fois, ça l'est beaucoup moins.
Stéphane, Gen V sur Prime Video, c'est une série pédagogique?
Alors, oui, non, je ne sais, non, je sais pas, ça parle beaucoup de sexualité, mais c'est tellement trop, enfin, c'est trop trash, quoi, enfin, pour que ce soit crédible et que ce soit intelligent, quoi. Alors, donc, Gen V, juste pour dire, c'est le spin-off de The Boys, ouais. Donc, c'est sur des jeunes qui sont dans une fac avec des super-héros. Pour être super-héros ou pas. D'ailleurs, on leur propose deux cursus, c'est être super-héros ou travailler dans la com. Donc voilà, c'est très drôle. Et c'est plutôt agréable à regarder, même si c'est clairement pas fin. C'est très...
c'est peu dire, hein.
Trop vulgaire. J'allais dire très... Non, mais en fait, c'est trop vulgaire, en effet. C'est vraiment trop vulgaire et gratuit. Voilà. Tu vois
comme
des...
Comme The Boys,
de...
donc.
Donc c'est pour arrêté. Les incels, mais jeunes.
C'est pire que The Boys, je trouve.
Ah ouais?
Ah, on peut faire pire que The Boys.
The Boys, je trouve qu'il y avait quand même certains aspects auxquels on pouvait se raccrocher. Tandis que là, à la fin de l'épisode, quand j'ai fait Big Bang, j'ai rien trouvé. Un spin-off pour aller encore plus dans l'extrême et...
Ah bah alors, là, tu vois, j'accroche plus à Gen V, parce que de The Boys, j'ai arrêté parce que c'était vraiment trop con pour moi. Mais... ce que j'aime bien, c'est que quand même, alors on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, c'est pas le sujet central, mais les pouvoirs qui sont associés aux personnages sont assez intéressants sur ce que ça veut dire sur sur l'adolescence, etc., sur la santé mentale, etc. Parce qu'il y a une, elle est obligée de se faire vomir pour rétrécir, et l'autre, elle est obligée de se taillader pour faire sortir le sang et manipuler le sang. Donc il y a quand même.
Ouais, mais c'était trash, ça.
Oui, non, mais c'est trash. Je suis d'accord, mais c'est quand même. Intéressant de proposer ces pouvoirs-là et d'avoir une réflexion, même si elle est minimale, hein, clairement. Gen V ne va pas aller bien au-delà, mais minimale sur les conséquences de... Voilà. Enfin, pour le coup, il y a un petit truc, sauf que ce n'est pas ça du tout ce que propose la série, quoi. C'est juste un polar très con, quoi.
Est-ce que justement ce que tu dis, c'est pas justement l'opportunisme pour dire regardez, prend les problèmes des jeunes et on en fait des pouvoirs, mais
C'est pas con, j'avais pas pensé ça comme ça.
Mais si c'est clairement ça, dans le même style qui a apporté plus quelque chose, t'avais la série The Power aussi sur Amazon qui était plus.
C'était avec les filles qui avaient le.
Moins sur l'opportunisme.
Ouais.
Oui.
Ouais. Ah, la série anglaise, non, c'était anglais.
C'était
adapté d'un bouquin.
Et ouais. c'était quand même un peu mieux traité que
oui,
celle-ci.
Mais malgré tout, personnellement, j'accroche. D'ailleurs, je regarde les épisodes avec un certain plaisir, hein, malgré tout. Donc, c'est pas si raté que ça. Ça pourrait être largement mieux, par le coup. Voilà.
Mais une question, est-ce que ça étend vraiment l'univers de The Boys? Parce que j'ai lu que c'était donc... canon, entre guillemets, dans le sens où ça se passe en même temps que la saison 4. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils savent comment... Enfin, d'où est-ce que leurs pouvoirs proviennent? Enfin, ce genre de choses.
Alors, je ne sais pas, mais a priori, ils disent tout le temps « Oui, tes parents t'ont injecté le sérum pendant que tu étais enfant. »
Ah oui, okay,
voilà,
oui.
Donc, j'imagine que oui. Voilà. Mais bon, comme vous pouvez le voir, on peut regarder Gen V sans regarder The Boys. Hein, donc, voilà. Moi, j'y arrive.
Oui, niveau compréhension, c'est pas compliqué. Hein.
Clairement.
Je trouve ça. C'est qui la gamine déjà? Ah oui, si, c'était ça, c'était Sabrina, c'est les deux acteurs de Sabrina, c'est vrai. Bref, pardon.
La saison est terminée?
Non,
non,
il en reste encore
5.
3. Ouais.
Il y en a que 5. D'accord.
Mais je sais
et
pas.
Ça tend vers quelque chose ou pas du tout?
Oui, il y a une histoire avec le truc, là, les expérimentations qu'ils font sur les gosses, mais on est au 5e épisode, il ne s'est pas forcément passé grand chose non plus, quoi.
D'accord. Ahsoka a aussi fini sa saison 1, j'allais dire, mais sur Disney+. Est-ce que c'est le long film que l'on attendait, Maxime?
Oh,
mais j'ai pas vu.
Ah, pourtant j'ai écrit Maxime. Pourquoi?
Ah, parce que je sais pas. Mais non, j'ai arrêté Star Wars, Marvel, tout ça, c'est fini.
Stéphane.
Oui, alors non, ce n'est pas un long film, clairement, parce que c'est fait par quelqu'un qui sait créer une série, donc ça c'est déjà bien. Merci Dave
qui
Filoni.
Dave Filoni. Je veux des noms.
Dave Filoni, qui est à la manœuvre sur les séries Star Wars animées, et donc plus animées maintenant. Et c'est très très bien, mais c'était très très bien. Que tu aies vu... Alors, il faut avoir vu Star Wars Rebels, clairement, la série animée, mais pour apprécier toutes les saveurs de tous les épisodes, de tous les retrouvailles, tous les caméos, enfin bon, voilà, sinon tu es un peu perdu, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. C'est, comme disait tout à l'heure pour Gen V, c'est assez compréhensible pour un néophyte, donc voilà. Mais c'était très bien, c'était juste très très... Non mais enfin, je suis tombé en amour de la série, donc clairement, moi c'était mon kiff, voilà.
Ah ouais.
Ah oui.
Je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé. Ouais,
au tout début, mais alors là, avec la fin en plus, oui, non, mais je suis complètement impatient d'avoir la saison 2. Parce que clairement,
il y a une saison 2.
Ah, mais c'est pas une mini-série.
À la base, je t'aurais dit que si, mais vu la fin, c'est pas possible. Ou alors, parce qu'à un moment donné, ils avaient dit comment ça planifier l'univers. Non, la suite, c'est-à-dire avec la saison 4 de The Mandalorian, et puis il y avait un téléfilm, et puis il y avait une autre série. Donc, potentiellement, il place ses pions pour la suite. Mais vu le succès et vu l'enthousiasme, ça serait dommage de ne pas faire une saison 2. Parce que ce qu'ils ont mis en place à la fin, c'est vraiment très important pour la suite de l'univers Star Wars.
En fait, il y a un truc que je n'ai pas compris, je vous avoue. Ok, c'est cool, ils se retrouvent, blablabla. Mais en fait, je n'ai pas compris le personnage de Throne, la Grand Admiral Throne. Là, j'ai rien compris.
Ben quoi ?
Genre, littéralement, est-ce que c'est grave qu'il... Bon, spoil, on s'en fiche. Est-ce que c'est grave qu'il soit de retour ? Enfin, je veux dire, à quel moment ?
Oui, parce que c'était...
C'est quoi la suite de... Enfin...
Bah, il n'y a pas de suite, parce que là, il est en train de nous écrire un truc complètement original. Donc, c'était l'un des plus grands admirals de l'armée, enfin de l'Empire, un méchant qui est connu parce qu'il a eu droit à des livres qui ne sont plus canons aujourd'hui, mais par Timothy Zahn. Et quand il a été réintégré dans l'univers Star Wars via les séries animées, il a repris sa place de droit, c'est-à-dire c'est l'un des plus grands méchants en dessous de l'empereur, quoi.
Et de Dark Vador. En fait, ce qui me perturbe, c'est que la suite de l'histoire, de l'histoire avec un grand H, on la connaît, vu que la suite de l'histoire, c'est les films.
Oui,
on est d'accord.
C'est la post-logie, oui. Voilà, oui, c'est-à-dire que ils vont combler un trou de 30 ans, voilà. Comment le premier ordre est revenu sur le devant de la scène, quoi.
Ah ouais, non, mais en fait, c'est encore un truc inutile pour combler un truc. Ok.
Non, c'est pas inutile parce que ça s'intéresse sur d'autres personnages, donc c'est vraiment très bien. Mais il faut aimer Star Wars.
Mais c'est pour combler quelque chose dont on n'a pas envie qu'il soit comblé, quoi.
Tout dépend. Si tu te contentes des films, oui, en effet, t'as pas besoin de regarder les séries. Si t'as besoin d'avoir, je sais pas, moi, c'est un kiff perso de voir l'univers s'étendre et de voir d'autres personnages. Et Ahsoka, c'est l'âme de Star Wars. Et pourtant, tu ne la vois pas dans un des 9 films. Donc, elle a le droit à sa série.
Non, mais c'est bien. Tant mieux qu'elle ait sa série.
Mais c'est pareil avec.
C'est comme si c'était un préquel. Je comprends pas les préquels.
C'est même pas un préquel. C'est un truc parallèle d'un moment de l'histoire de Star Wars. Mais bon.
Oui, mais ce que veut dire Aki, c'est qu'ils sont plus capables d'inventer quoi que ce soit.
Ah, mais au contraire, parce qu'ils inventent là-dedans. C'est ça.
Ouais. Non, t'inventes un truc, mais pour combler quelque chose.
C'est ça.
Si mais tu non, mais chose, c'est, il te base quand même sur quelque chose.
Mais il comble. Oui, mais il comble une période de temps.
Complète. C'est ça le truc.
Ouais, oui, complète. Complète, plus qu'au comblé. Voilà.
Je ne suis pas convaincue. Pourtant, j'ai bien aimé, hein, mais je ne suis pas convaincue quand même par l'intérêt de l'existence de cette série.
Si on n'a pas vu du tout Rebelle, ce n'est pas la peine de voir Ahsoka.
Moi, je n'ai jamais regardé Rebelle,
si
j'ai regardé Ahsoka. Hein,
tu peux, mais tu auras beaucoup moins d'émotions dans les retrouvailles des personnages.
Ah oui, clairement. Ouais, moins d'émotions. Et surtout, tu te diras, punaise, alors ils nous ont hypé pour Ezra, et en fait, c'est juste un petit branleur. Non, je plaisante. Mais juste, je n'ai pas compris le personnage d'Ezra.
Mais c'est parce que tu n'as pas vu Rebelle, tu n'as pas vu ce qu'il a fait pour se sacrifier. Bah, voilà, et pourquoi
il y a combien de saisons de Rebels ?
4.
3, non ?
4.
Ah ouais, un moment.
Voilà. Et la saison 4 est la plus importante pour la compréhension de ce qui se passe dans Ahsoka.
Magnifique, Stéphane.
Ben, merci.
Après, les effets, c'était très beau. Hein, je veux dire, les acteurs étaient très bien. Hein, tout était très beau. J'ai bien aimé. Enfin, j'ai toujours pas compris pourquoi les méchants sont toujours ne parlent jamais. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi les apprentis, donc pas Jedi, mais on va dire pas des Sith, mais
c'est
vous avez compris,
quoi. Ouais, c'est ça.
Pourquoi ils parlent pas ? C'est quoi leur délire ? Ils peuvent communiquer, non ? Enfin, faire des phrases de 5 mots, non ? C'est trop dur.
Non, mais surtout qu'en plus, c'est trop triste parce que donc, l'acteur qui jouait donc, le méchant, là, c'est Ray Stevenson, il est mort. Donc, s'il y a une saison 2, sachant qu'il avait un truc assez intéressant sur le futur de la Force et de ce qu'il allait proposer, qui n'est pas des Sith, mais pas des Jedi non plus, et bien, voilà. On verra bien ce que ça donnera.
Bref.
Ouais.
C'est fou quand même que vous n'aimez pas Star Wars. Hein.
Bah écoute.
Franchement,
je suis allé voir Empire Strips Back. Hein,
oui, d'ailleurs, ça vaut le coup ou pas ?
Ça vaut le coup si t'aimes les fessiers, oui.
Ah oui, bah, d'accord. Mais je pensais pas que c'était autant. Ouais, d'accord, okay.
C'est un spectacle burlesque Star Wars.
Ah d'accord, ok.
Ouais, il y a des trucs chelous à Paris hein, quand même.
Oui, bah il y a surtout un Palpatine très chelou. Ah. Tu vois Palpatine d'un autre œil.
Ok, voilà. Moi, tu me donnes envie.
On ouvre la parenthèse de série française avec Parlement sur France.tv, la saison 3, si je ne me trompe pas, de cette série qui peine à percer. Est-ce que j'ai raison, Maxime ?
Non.
Non, je dirais
si.
Pas.
Non, il a, non, il a, ah si, il a raison.
Elle a trouvé. Il m'a posé la question à moi, ok ?
Pardon.
non, je dirais qu'elle a trouvé son public. Après, ce n'est pas un public.
Oui, vous êtes trois. Voilà.
Non, pas du tout.
Déjà, on est quatre là, en plus. Donc...
Et je l'ai beaucoup recommandé, donc je sais qu'il y a des gens qui ont été la voir. Donc voilà. Mais oui, en effet, c'est pas un succès monumental. Mais quelle série française, à part 10% ou HPI, peut dire que ça a été un succès monumental ? Mais la saison 3 est très très bien. Il faut la regarder parce qu'on bouge un peu du Parlement, on va à la Commission. et moi, je trouve ça toujours aussi bien. Enfin, c'est très pédagogique sous ces airs un peu. Burlesque, absurde, mais ça t'apprend vraiment comment fonctionnent nos institutions, parce qu'on y est présent et on y participe, et en fait, tu te rends compte que tu ne sais absolument pas comment ce qu'ils font, comment ils le font, quels sont les enjeux de pouvoir dedans, et je trouve que la série fonctionne vachement bien sur ce plan-là. La saison 3 est un peu moins bonne que la saison 2, mais ça reste quand même... moi, je trouve que ça se regarde.
Ouais, mais ça, c'est la faute aux nouvelles dynamiques. Ils ont séparé le trio et des fois, ça pêche un peu.
Ah non, mais... Oh, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Thorsten? Qu'est-ce qui s'est passé
pour Thorsten? Son arc est ridicule, quand même, à lui.
Mais important. Wow.
Je crois qu'il était pris sur la série Transatlantique de Netflix.
Ah.
Ah, mais c'est d'accord. Pas une raison.
Super.
Ah, ouais. Si, conflit d'agenda.
Ouais, mais...
Bon. Ouais, mais valait mieux qu'il parte pour un petit moment. Je sais pas, il lui faisait faire un voyage, mais là, c'est pas possible.
En plus, son retour, limite, il avait même pas besoin de revenir. En revanche, le concept de ce qu'il représente est intéressant.
Je suis tout à fait d'accord, oui, clairement. Ouais.
Oui. Et aussi, moi, j'ai toujours du mal avec... on peut plus dire la nouvelle députée maintenant, mais la...
Alors, la française, c'est Valentine.
Oui, ouais. Valentine, ouais. Je comprends pas son personnage. Je trouve qu'elle joue mal en plus. Elle a pas de passion. Enfin, je comprends pas.
Elle a pas de
passion.
Genre, oui, mais justement, elle est censée représenter.
Représenter.
On est tous fatigués.
Ouais. Elle est censée représenter des élites technocrates qui n'en foutent pas une, en fait, qui ne savent pas faire. Et pour le coup, dans la saison 3, elle le représente encore plus, quoi. On voit bien que. En fait, elle n'a aucune idée par elle-même. Elle se laisse driver par tout le monde. Enfin, elle n'a que de l'ambition. Et c'est
sur le cours du vent. Et puis voilà. Quoi.
Et si je peux juste rajouter, je crois que c'est la seule série qui a réussi à résumer l'état d'esprit des Verts. c'est juste, il y a une scène magique où c'est à mourir de rire. Mais on ne peut pas faire mieux pour qualifier un Vert. Voilà.
Et les dialogues sont excellents.
Ouais.
Oui, ça,
non, mais c'est toujours très fin quand même, hein, dans l'écriture de la politique.
Et c'est quand même saison 3, ce qui est assez rare pour une série française.
Et la saison 4 est annoncée. Oui. Voilà.
Bon, c'est une coprode.
Et en plus, c'est régulier. On n'attend pas 3-4 ans entre chaque saison.
Oui, clairement.
Je me demande si leur petit laïus à chaque début d'épisode de regarder en VO marche vraiment ou pas. Voilà.
Ben moi, heureusement qu'ils me le rappellent, parce que des fois, je ne vois pas pourquoi France TV le lance en français. Hein, mais voilà.
Pareil, oui. Donc si oui, ça fonctionne bien en fait.
Et bah si l'équipe nous écoute et veut venir pour parler de la saison 4, il n'y a pas de souci. Killer Coaster, rien à voir sur Prime. Est-ce que ça valait le coup de voir la famille Lamy, Stéphane ?
Eh bien, bizarrement, oui. Je me suis beaucoup amusé.
Merci.
Mais oui, moi aussi.
Ben, je me suis beaucoup amusé.
Sérieux?
Alors, ben ouais. Mais alors, c'était pas la comédie qu'on nous a vendue. Mais c'était drôle. Mais c'était sympa. Et franchement, c'est les sœurs Lamy que je peux pas trop me piffrer. Mais franchement, elles étaient plutôt pas mauvaises. Et j'ai découvert la fille, Chloé Jouanet.
Moi, j'avais découvert la fille que j'avais trouvée très bien au cinéma. Mais quand j'ai vu les extraits de la série, ça m'a pas attiré plus que ça, quoi.
Ah, franchement,
là, ça ressemble vraiment à Dermy Girl. Hein. Pour le coup, le ton, les couleurs et tout, c'est vraiment l'univers. J'ai oublié comment il s'appelait, le créateur d'ailleurs, trop de mémoire. Mais enfin bref, ça, on reconnaît vraiment la patte un peu pop.
Oui, c'est le même. Hein, c'est le même
oui, c'est Nicolas Lange, voilà.
Ouais. Nicolas Lange.
Le jeu de Chloé Jouanet, c'est exactement le même. Elle a pas changé complètement entre les deux séries. Mais c'est vraiment très bien. Enfin, moi, j'ai été...
Ah, très bien, carrément.
Ah oui, oui.
Alexandra Lamy, franchement, je trouve qu'elle nous...
Très bien.
Enfin, elle m'étonne toujours à chaque fois dans ses rôles. Parce que, oui, c'est vrai, j'ai toujours un peu cette image d'elle dans Un gars, une fille, c'est vrai. Et même si ça fait des décennies, hein,
ça fait 30 ans.
Mais que ce soit dans un drame ou dans une comédie, je trouve qu'elle joue très juste. Et là, dans l'absurde, elle n'a pas peur de se rendre ridicule et je trouve ça vraiment cool.
Et même Audrey Lamy, je trouve qu'elle sait toujours s'arrêter au bon moment. Elle est très caricaturale dans le rôle qu'elle a, mais il y a toujours un moment où elle s'arrête sur l'absurde et elle bascule dans l'émotion et elle arrive à... Elle a quand même de très belles scènes. Et parmi un truc qui est un bordel pas possible, et elles arrivent quand même à avoir des super scènes. Enfin, franchement, c'était une grosse surprise.
Et je sais pas si leur complicité est vraiment... Enfin, oui, elle est visible, mais je sais pas si c'est ça qui rend que leur relation aux deux personnages marche bien ou si c'est juste qu'elles sont bien écrites, quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elles ont géré.
Mais par contre, elles s'amusent... A priori, elles se sont beaucoup plus amusées hors tournage que ce qu'on peut voir à l'écran.
Comment ça?
Parce qu'elles habitaient dans la même maison.
Ouais, on voit pas qu'elles s'éclatent comme ça peut se voir sur d'autres séries, sur d'autres acteurs, chez d'autres acteurs. Elles font leur taf.
Bah, c'est intense, quoi. En même temps, d'ailleurs, pour la petite anecdote.
Comment?
Je disais, c'est pas qu'une comédie, donc en fait, tu peux pas t'éclater autant.
Non,
que,
voilà.
Si ça avait été une pure comédie.
Mais moi je sais pas pourquoi.
À tenir leur histoire.
Le marketing de Prime Video a été à chier, hein, parce que je pensais vraiment que c'était une comédie et que ça allait être partir dans tous les sens. Il y a d'excellentes vannes sur de cul. Ça, j'étais à mourir de rire à chaque fois. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sérieux et aussi émouvant, comme tu peux dire, parce qu'Audrey Lamy, au final, elle tire l'arme, quoi.
Avec son père, c'est qu'on voit, ouais.
Ah ben, en promo, c'était pas du tout l'image qui est
donnée. Et non, mais c'est clairement, ils se sont chiés, Prime Video, je comprends toujours pas. Quoi,
non, parce qu'ils voulaient le vendre de cette manière-là, comme Sentinelle, comme je sais pas quoi. Enfin, si, il y a une certaine...
C'est juste que c'est mieux foutu que Sentinelle. Hein.
Exactement.
C'est et plus drôle.
Mais
c'est mini-série.
Ah, ben non, c'est ça qui est bien.
Oui.
Parce qu'ils ont bien planifié une saison 2 avec les dernières images qu'on a. Parce que, et franchement,
j'allais dire, est-ce que ça méritait pas plutôt de faire un film plutôt que de faire une fois
30 Pour le coup, c'est une vraie série avec des vrais cliffhangers.
Ouais. Et des personnages secondaires qui peuvent être développés encore plus, etc.
Il y a un monde aussi qui est quand même très inédit. Enfin, les forains, ça fonctionne super bien, alors qu'à la base, t'aurais pas mis un sou dessus, quoi.
Et c'est vrai que je me suis dit, putain, ils vont arriver à trouver l'assassin et tout, machin. Et en fait, ça va me frustrer d'avoir que c'est qu'une une mini-série, quoi. Et bien, en fait, non. Et au contraire, j'étais emballé par ce qu'ils proposent à la fin de la saison. Et je me dis vivement qu'ils annoncent une saison 2, quoi.
Mais ça a marché ? Tu crois qu'il y aura une saison 2 ?
Mais j'en sais rien, à un moment donné, Prime Video, il va falloir qu'ils renouvellent des saisons 2. Hein. Enfin, renouvellent, du coup. Parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Voilà, quoi.
Bah, vous avez l'air tous assez
Contents
de la série.
Et je suis le premier surpris d'être surpris.
Sous contrôle sur Arte, est-ce que c'est encore une série française oubliable à qui ?
Alors, oubliable, je dirais pas oubliable. Pour moi, je trouve que c'est assez inédit même.
Oh.
On n'a pas encore eu de comédie française dans la politique. Ou alors, je m'en souviens pas.
Parlement.
Allez-y. Hein.
Parlement.
Parlement.
Non, mais ok. Non, mais à part Parlement... Et en plus, là, c'est un peu différent. Enfin, là, on parle vraiment du gouvernement au niveau national.
Ah, il y a eu Marseille. Marseille.
Série politique.
Une comédie, on a dit.
C'était bah drôle. Oui, justement.
Bon, peut-être qu'au Marseille, oui, vous me direz. Là, j'ai vraiment trouvé un ton presque anglais et c'est ça qui m'a vachement plu pour le coup. Et ça a bien marché. C'est, en fait, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on ne se moque jamais des personnages, mais on se moque d'une situation donnée. Donc, en l'occurrence, c'est genre une femme qui gérait une asso et qui va être propulsée ministre des Affaires étrangères. Étrangères. Et le jour où elle est nommée, en gros, il y a une prise d'otage. J'ai oublié où, au Sahel, mais je ne sais plus. Enfin bref, une prise d'otage et elle doit gérer cette situation-là. Et donc, elle est hyper volontaire en mode « Oui, vous inquiétez pas, je vais gérer. Non, mais on va pas payer. Mais attendez, on va quand même trouver un arrangement avec les terroristes, blablabla. » Et après, ça engendre plein de conséquences avec des gaffes, que ce soit du côté des médias ou du côté manière dont elle dialogue avec les terroristes, etc.
Les familles des otages qui sont chiants.
Ah oui, ils sont... oui, pas du tout de compréhensible, leur famille, on va dire.
Clairement pas, non.
Et moi en tout cas j'ai été hyper cliente de ce format. Alors bon, ça a pas plu à tout le monde, je pense, mais pour moi ça a changé vraiment, surtout d'Arte, quoi.
En fait, le problème c'est que toute la saison tient sur une seule situation.
Ouais, c'est dommage.
Et sur des quiproquos qui fait que la situation dure. Et en fait, le quiproquo c'est très bien dans un épisode, mais quand on a 25 dans la série, t'as l'impression d'être enlisé dans l'histoire et au bout d'un moment, en fait, t'apprends plus rien du personnage. Et là, je l'avais vu la première fois quand elle a été diffusée à Sériemania, où je l'avais trouvé bien. Et là, je l'ai revu une deuxième fois quand Arte l'a mise à dispo. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'au bout du deuxième épisode, je me faisais chier. Mais vraiment, une fois qu'elle a fait des allers-retours avec les familles, qu'on a compris que tout allait tout le temps se passer comme ça, des quiproquos avec les otages, avec les familles, avec le président de la République, avec sa fille, enfin, tout est basé là-dessus. Et du coup, à un moment, je m'ennuie, je trouve plus ça drôle. Alors que pourtant, l'idée de base est sympa.
Le premier épisode, ça partait bien et après, ça s'enlisse, quoi. Ça reste sur la même situation.
Elle a un travail de ministre des Affaires étrangères qui est quand même très focalisé sur libérer des otages, quoi.
En même temps, enfin, je veux dire, ça se passe presque pas en temps réel, mais genre un épisode, c'est un jour limite, quoi.
Non, le deuxième épisode, il se passe au moins 15 jours.
On va sur 30 jours, quand même, sur 6 épisodes.
La série Agewas sur un mois.
Oui, voilà, c'est ça. Donc,
c'est-à-dire qu'ils lui font faire des allers-retours à l'autre bout du monde pour parler des otages dans les épisodes. Enfin. C'était drôle, mais c'était trop étiré pour pas grand-chose.
Ah, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé aussi qu'on voit le point de vue des otages. Enfin, non, moi, j'ai trouvé vraiment ça bien fait.
Il y a un truc qui est un peu con parce qu'ils essayent de montrer que ministre, c'est aussi beaucoup de malentendus, de choses que tu peux pas dire, de choses que tu ne peux pas contrôler et t'essayes de contrôler ça. Mais elle a que les otages à faire. En tant que ministre des Affaires étrangères de la France, en 30 jours à ta prise de poste, ça m'étonnerait que t'aies que ça à faire.
Et en plus, elle est
c'est la priorité numéro une quand t'as des otages, je pense. Non, tu délègues à ton chef de cabinet, j'en sais rien.
Non,
mais en plus, elle est changée.
Elle est que 4 épisodes, ministre des Affaires étrangères.
Oui. Après, elle bouge au sport.
En série politique humoristique, il y avait En Place.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, qui est sorti en même temps quasiment, quoi.
Oui. Ouais, et il y aura une saison 2 d'ailleurs en place, au moins.
Oui, j'ai hâte de voir, j'avais bien aimé ça.
Avec Alain Chabat, il a réussi à capter Alain Chabat, ouais.
Bravo.
D'accord. Stéphane, 66.5 sur Canal+, est-ce que c'est ton coup de cœur ?
Eh bien, je ne vais pas dire ça parce que sinon, qui va sauter au plafond ? Mais j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est Anne Landois qui était showrunner des dernières saisons, enfin, pas des dernières, mais d'une grosse partie de Engrenage, des meilleures saisons d'Engrenage, pardon, sans vouloir manquer de respect aux autres. Mais qui est une grosse partie des saisons d'Engrenage qui a lancé une série judiciaire et avec Alice Izaz dans le premier rôle. Et c'était vraiment très, très bien. J'ai retrouvé tout le naturalisme que pouvait avoir Anne Landois et regarder ce que font les juges, regarder ce que fait la police, regarder ce que fait une avocate. Et c'était très, très bien. J'ai été accroché. Franchement, moi, je la suis les yeux fermés et à chaque fois, je ne suis pas déçu. Et là, franchement, 66.5 ou 66.5, je ne sais pas, c'était vraiment bien, quoi. franchement. C'est une grosse surprise. Je m'attendais pas à...
4 séries françaises qu'on conseille.
Ouais, mais
c'est rare. Hein.
Mais non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de saison américaine aussi. Comment tu veux qu'on fasse?
C'est vrai, hein, c'est tout à fait ça. Ah, c'est 66,5, hein, c'est genre c'est que c'est par rapport
au secret de confidentialité entre les avocats et les clients. Voilà. J'ai regardé parce que je sais, ils n'en parlent pas dans la série, donc voilà.
Oui. Bah, j'ai trouvé ça correct.
Mais
ça reste une série Canal, donc il y a des gros moyens, les acteurs jouent très bien. En fait, je trouve juste qu'il y a trop de sous-histoires, de sous-histoires dans l'histoire. Et il y en a plein qui m'intéressent pas. Donc autant toute l'ascension, toutes les affaires qu'elle a à Bobigny, etc., je trouve ça plus très intéressant. Mais alors l'histoire de son ex-mari, franchement, je suis un peu en mode
Ouais, je suis surpris parce que t'es pas la première que je vois avoir râlé sur l'intrigue du... Ben, en fait, tout commence parce qu'elle est mariée à un avocat à Paris et cet avocat est accusé de viol. Donc, elle se retrouve un peu mise au banc du cabinet et elle retourne chez elle. Bon, elle vient de la cité, donc elle retourne à Bobigny et puis elle se lance dans le pénal à Bobigny. Et j'ai été surpris de voir que beaucoup de gens ont râlé sur cette intrigue de viol de...
Ben, en fait, à un moment, c'est too much, quoi. Je trouve ça bien d'en parler, mais... Ah non, mais, enfin bref. Ça m'a saoulée. En plus, pour le coup, le mari joue pas très bien. Mais bon, ça, c'est autre chose. J'ai pas trop aimé non plus l'image générale, la photo générale de la série.
Ah, mais ça, c'est le côté naturaliste de Engrenage et de... qui s'est transmis.
Possible.
Ouais.
Et en revanche, alors encore une fois, vraiment, genre, Alice Izaz est très très bien.
Ouais.
Je suis pas particulièrement fan, mais elle m'a convaincue qu'elle est très talentueuse. Petite anecdote d'ailleurs, à La Rochelle, elle avait amené son chien et son chien était trop mignon aussi.
Ok, super, merci.
Quelle anecdote, magnifique.
Voilà, n'est-ce pas? Voilà.
Si ça vous pousse pas à regarder.
Et elle t'a pas donné, elle t'a pas donné des infos sur une saison 2, parce que vu la fin de la saison, là aussi, si on nous laisse en suspens, ça va me faire chier.
C'était Anne Landois, ça dépendra de Canal. Mais bon, on sait bien que Canal, c'est sûr, ils vont renouveler déjà. Et vu que ça marche vraiment très bien, genre les retours de la première saison sont plutôt bons, je pense. Qu'il n'y aura aucun souci à ce que ce soit renouvelé.
Je pense que ça peut aussi faire de figure de proue pour Canal+, qui est quand même à la peine depuis quelques années, depuis la fin d'un grenage.
En série judiciaire, veux dire ?
Non, il y a le Bureau des légendes.
Oui, c'est vrai. Non, mais ouais.
Bah, ça va faire 10 ans, hein, le Bureau des légendes, mine de rien.
Oui, et un grenage était bien plus long parce qu'il faut mettre 2 ans entre chaque saison. Mais voilà, et ça peut leur faire une nouvelle série quand même, figure de proue. Et puis, c'est avec la créatrice de Engrenage et c'est plus ou moins le même univers. Ça pourrait être une série dérivée, que ça serait pas choquant, où tu peux voir débarquer
alors,
le juge Roban.
Ils veulent pas dire ça. Hein,
ouais, mais tu peux voir le juge Roban débarquer à tout moment, quoi. Donc, ça serait bien. Mais bon, voilà, je pense que ça peut. Canapus doit d'ailleurs miser beaucoup dessus.
Et là, quand même, il faut le dire, ça se concentre vraiment plus sur l'univers judiciaire que la police, n'oublions pas.
Oui.
C'est un peu différent quand même. Mais c'est peut-être le côté naturaliste, comme tu dis, mais je trouve que ça manque de quelque chose quand même. Et aussi, pas convaincu vraiment par la dynamique entre Bilal et Roxane. Mais bon, ça, c'est juste d'un point de vue personnel.
Vivement la saison 2, moi, je dis.
Passe à Only Murders in the Building saison 3, Maxime, sur Disney+. Est-ce que ça vaut toujours le coup? C'est toujours aussi frais?
Alors, ça vaut toujours le coup. C'est plus tout à fait frais parce que maintenant, on connaît un peu toutes les dynamiques et du coup, t'as un peu plus de mal à être surpris. Après, la saison 3, elle est très bonne parce que de toute façon, il y a Meryl Streep. Donc, toute œuvre où il y a Meryl Streep est une bonne œuvre. Mais il y a quand même des épisodes, il y a un gros ventre mou en fait dans la saison. Elle démarre très bien, elle se termine très bien. Le cliffhanger pour la saison 4, il est excellent.
Ouais.
Mais entre temps, ça ronronne un peu. Il y a de la redite. Les personnages sont pas aussi fouillés qu'avant. Et du coup, le fait de plus être justement dans le building, mais au théâtre, je trouve qu'ils perdent un peu en efficacité.
Mais c'est là aussi, ils ont éclaté les dynamiques entre les trois personnages. Ils fonctionnent beaucoup moins ensemble dans cette saison 3 parce qu'ils se prennent le bec assez frais régulièrement. Et c'est là où ça pêche, quoi, clairement.
Ouais, je suis d'accord.
Bah, puis les autres personnages, enfin vraiment celui de Meryl Streep, mais même celui de Paul Rudd, ils sont très bien. Hein. C'est des bons personnages, mais on passe un peu trop de temps sur Meryl Streep, déjà. Donc,
Mais parce qu'au final, le personnage...
Elle apparaît pas tant que ça, hein. Elle doit apparaître dans genre 3-4 épisodes au final.
Non, elle doit faire mi-saison, 5 épisodes sur 10. Mais, oui. Mais son personnage est très important pour, voilà, mais pour la thématique de la saison et pour la suite. Mais quoi. Enfin, je sais pas.
C'est que dès que tu sais, bon, je sais pas si je peux spoiler ça.
Non, ne le dis pas.
Non, mais bon, dès qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'installe avec ce personnage pendant la saison, elle perd tout à fait, enfin, elle perd un peu en intérêt en fait, parce que elle est sortie un peu de l'intrigue principale et il y a d'autres enjeux, donc tu sais très bien que c'est pas par là qu'ils vont aller. Et les personnages en face sont pas assez forts pour que tu te dises c'est lui le meurtrier ou pas. Enfin, je trouve que le jeu de Whodunit fonctionne un peu moins bien.
Moi, mais je pense qu'ils ont tenté, quand même pas mal de choses, je trouve, sur cette saison 3. D'ailleurs, j'ai vraiment cru qu'à la fin de la saison, ils allaient dire oh, tiens, on déménage tous à Los Angeles, quoi. Mais ouf, voilà, ils restent à New York.
Changeling, une sorte de servante, hein, encore sur Apple TV+. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est terminé? Sinon, pas ça. Je sais que ça a terminé le 13 octobre, alors je ne sais pas si vous avez vu toute la série ou pas.
Moi, j'ai vu 5 sur 6.
Ah. Alors
je crois. J'ai trouvé ça imbuvable. En fait, à la fin, je le lançais, je ne regardais pas. J'ai vraiment trouvé ça imbuvable. C'est long, c'est chiant, tu ne comprends rien. Et c'est très sombre. Donc, vraiment...
Sombre comment? Visuellement?
Ouais.
Ouais, ok.
Ouais, et dans l'intrigue aussi. Ah, c'est très, très sombre dans l'intrigue aussi. Mais du coup, c'est un peu une chape de plomb quand tu lances l'épisode et que tu vois que ça fait 55 minutes. Quoi. Bon, après, il y en a des plus courts, mais...
Ah, mais c'est des épisodes d'une heure. Oh là là.
Pas tous.
Moi, je comprends pourquoi je ne me suis pas lancé, en fait.
Ouais. Aki, prépare-toi pour nous parler de la saison 2 de La Roue du Temps.
Ah oui. Eh bien, figurez-vous que c'est vraiment bien maintenant. La saison 1, je pense qu'elle a laissé beaucoup de gens un peu sur leur faim, les fans notamment, des bouquins. Et... moi, je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose, c'est vrai. C'était une exposition, en fait. C'était une longue expo, la saison 1. Et là, enfin, il se passe des choses. Les méchants se révèlent. Les autres parties se révèlent. On comprend un peu mieux à quoi sert leur pouvoir. Non, c'est assez intéressant, tout se construit. Et là, à la fin de la saison, il y a encore l'introduction d'un nouveau personnage qui est hyper prometteur. Quoi.
Spoiler, j'ai pas vu le dernier encore. Je suis à la ramasse.
C'est bon, tu vas voir alors. Et ils ont appris à jouer entre temps aussi, les jeunes.
Putain, mais celui qui joue Rand, il a eu une amélioration. Déjà, ils ont viré ses cheveux, ça lui va beaucoup mieux et il joue tellement mieux. Quoi.
Alors, Rand, c'est toujours le plus faible pour moi des jeunes. Ouais, mais il s'est quand même assez amélioré. Oui, il partait de très, 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 très loin. Genre, waouh!
Ah ouais,
vraiment.
J'avais pas vu un acteur aussi mauvais
que lui. Et là, franchement, je les regarde. C'est crédible, là. Franchement, c'est crédible. Et j'ai bien aimé qu'ils se retrouvent aussi parce qu'ils étaient un peu éclatés tout le long de la saison. Donc, ils vont se retrouver petit à petit. Et c'est très prometteur, vraiment. J'ai hâte de voir la prochaine saison.
Oui, moi aussi.
Donc, si vous êtes en manque d'Heroic Fantasy.
Pour la saison 3, c'est déjà re-signé.
Ah, je pense qu'ils avaient déjà annoncé genre 5 saisons, enfin j'en sais rien en fait, hein. Mais ce serait... Ouais. Oui, je pense qu'il y a aucun...
Elle fait de la désinformation, quoi. Ok, d'accord, super.
Oui, là c'était complètement une fake news, là, je le dis. Hein. Mais pour moi, il n'y a quand même aucun doute, quoi.
ça serait dommage de s'interrompre là, alors que je trouve qu'elle a des bons retours et elle n'est pas si mauvaise que ça au final, hein. Clairement.
Ah non, mais là vraiment...
Moi, je m'amuse beaucoup plus en saison 2.
Ils ont de la poigne, franchement, c'était...
Parce que la première était laborieuse, quoi.
Ouais, c'était un petit peu...
Ouais, mais l'univers était quand même beaucoup trop vaste et avec beaucoup trop de personnages pour qu'on puisse être happé, quoi.
Et là, ce qui est étonnant, c'est que tous les personnages m'intéressent. Alors que souvent, quand c'est éclaté, quand c'est une série chorale comme ça, genre, j'ai tendance à zapper en avance rapide l'un des personnages. Mais là, je les regarde tous. Donc voilà, c'est plutôt bon signe.
A priori, la saison 3 a été commandée en juillet 2022. Voilà.
Ah d'accord.
D'accord.
Bah tant mieux.
Et donc, c'est sur Prime Video, donc à rattraper. Finalement, même s'il y a la grève, on a quand même pas mal de choses. La grève est à peu près terminée, je mets entre guillemets, parce que
les scénaristes ont
repris le boulot. Mais pas les
acteurs.
Apparemment, les techniciens aussi, ils vont peut-être s'y mettre aussi. Donc,
ah ouais.
Donc,
ah ouais,
les, donc. Oui, Les scénaristes sont revenus dans les writers' room. Évidemment, il y a beaucoup de tournages qui sont arrêtés, qui ne reprendront pas tout de suite. Par exemple, pour Evil, Robert King avait dit qu'ils étaient en plein milieu de l'épisode 10, mais qu'il ne sait même plus ce qui se passait. Donc,
Même lui, il s'y perd.
L'épisode 10, donc apparemment, c'est le dernier en plus de la saison.
Ouais.
Et il avait dit que s'il pouvait finir en marionnette, il le ferait, ce qui ne serait pas une très mauvaise idée.
Ça pourrait être drôle. Génial. Mais je crois qu'ils ne l'ont pas fait dans un épisode de The Good Fight des marionnettes. Ah non, c'était le dessin animé. Pardon, j'ai rien dit.
Rien à voir, Stéphane.
Non,
ils en ont fait des choses.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve en direct de Castres le samedi 28 octobre pour parler de la vie et de la mort de séries télé.
C'est bientôt.
Et oui, donc n'hésitez pas, si vous nous croisez, à nous dire bonjour et à dire bonjour à Aki, à se jeter sur elle, à lui faire plein de câlins, parce qu'elle adore ça.
Lol.
Et n'hésitez pas aussi, bah, après, à venir nous dire ce que vous avez pensé de tout ça et puis nous dire des petits mots, ça fait plaisir. Donc rendez-vous à Castres et puis évidemment sur toutes les plateformes pour la suite de nos aventures podcastiques. Merci à tous, merci Stéphane, Mélanie, Maxime, Aki, et à bientôt.
Merci Tom, à bientôt.
Merci mec, au revoir.